Handicap et homosexualité, deux thématiques pour lesquelles on trouve de nombreux travaux, très peu pourtant se penchent sur leur interaction. Un colloque organisé à Marseille par les universités d'été euro-méditerranéennes des homosexualités a été l'occasion d'aborder cette question. Dominique Goblet, chercheur en psychologie, est l'auteur d'une étude réalisée en 2010, Handicap et homosexualité, double tabou, double discrimination.
On se rend compte que l'addition des deux provoque évidemment des discriminations, et c'est encore extrêmement tabou, tant du milieu du handicap, qui ne parle pas tellement de l'homosexualité, on ne veut pas en parler, que du côté du milieu gay, qui refuse évidemment le corps différent et qui est à la recherche plutôt du corps parfait.
Les personnes sont plus souvent discriminées en raison de leur handicap que de leur homosexualité. Parler de l'un ou de l'autre devient alors une vraie difficulté.
Souvent, bon, on parle de leur handicap parce que c'est visible, etc., mais elles se disent, bon, le handicap prend déjà tellement de place que parler encore de l'homosexualité en plus, beaucoup de personnes ne le disent pas. Et ben, les personnes fonctionnent un petit peu par tiroir. Avec certaines personnes, bon, ben, quand elles sont en confiance, elles le disent. Avec d'autres, elles ne le disent pas. Et donc, au point de vue de l'épanouissement personnel, c'est pas facile.
Le problème principal reste l'accessibilité des lieux de loisirs, tels que les bars ou les boîtes de nuit. Fabrice Sely est lui-même en situation de handicap. Il a fondé à Paris l'association Handivol.
L'accès au sauna, par exemple, il y a des saunas qui sont accessibles, mais seulement au premier étage, mais pas au deuxième ou au troisième étage. Au premier étage, il y a un coin repos, mais le plus intéressant, c'est qu'il y a au deuxième ou au troisième étage des coins pour les rencontres, pour les rencontres sexuelles et tout.
Autre constat, les enquêtes sur les populations homosexuelles n'intègrent pas la question du handicap, un manque d'informations préjudiciable.
Comme il n'y a pas d'enquête par rapport à la population handicapée et homosexuelle, on ne peut pas justifier de financement ou d'enquête ou par rapport à ça.
Pour Fabrice Sely, l'accent doit avant tout être mis sur la sensibilisation et la prévention. Établissements spécialisés, homosexuels, handicapés, tous sont concernés pour éviter les dérives.
Cette population peut être amenée à prendre des risques parce qu'ils sont prêts à faire tout pour aller avec une personne. On a eu certaines petites informations que des personnes handicapées se prostituaient.
Et comme le révèle l'étude de Dominique Goblet, pour pouvoir parler de sa situation est indispensable.
Il faut accepter son handicap avant et après, on accepte beaucoup plus l'homosexualité. Et accepter son handicap avant, ça passe par des espaces de parole où on discute de l'estime de soi et d'avoir confiance en soi.
À Marseille, plusieurs associations proposent des espaces de parole. Le site handicap13.fr regroupe leurs coordonnées. En Europe, une personne handicapée peut faire appel à un accompagnant sexuel, une pratique non reconnue en France. Aujourd'hui, seule l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et la Suisse proposent légalement ce type de service. C'est d'ailleurs en Suisse que Judith Arégé a suivi une formation d'accompagnatrice sexuelle, pays où elle exerce encore aujourd'hui.
Ça consiste à emmener une sexualité à des personnes qui en ont pas du tout ou qui se sont déconnectées de leur corps à cause d'un accident ou qui n'ont jamais connu la sexualité parce qu'elles ont vécu une vie en institution et elles n'ont pas pu rencontrer des gens. Des gens aussi qui sont peut-être techniquement maintenant pas capables de se masturber, se soulager eux-mêmes.
Caresse, massage, il n'y a pas de service obligatoire. Chaque accompagnant propose les prestations qu'il souhaite, en accord bien sûr avec la personne handicapée.
Nous avons fait une formation d'accompagnement sexuel il y a 3 ans. Et je suis pour l'instant la seule qui sort de cette formation qui fait maintenant un rapport complet. Donc on est libre de définir nos propres limites de ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire.
Le métier est très encadré afin d'éviter les dérives. L'accès à la formation est lui-même soumis à de nombreux critères.
Il a fallu avoir 30 ans, il a fallu avoir un travail à côté, donc qu'on ne vit pas uniquement de l'assistance sexuelle. Pour faire un peu aussi la différence avec la prostitution, que l'argent n'est pas au premier plan. Il faut qu'on ait beaucoup d'empathie, qu'on ait un certain amour pour l'être humain.
La frontière entre accompagnement sexuel et prostitution est bien sûr très fine. C'est d'ailleurs le principal problème relevé lors des débats en France. Pour Judith Arégé, on peut même parler d'une forme de travail sexuel.
C'est un geste sexuel contre une rémunération. Maintenant, la différence est certainement déjà le temps qu'on prend avec un client. C'est une assistance dure une heure et demie. C'est aussi le rencontre préliminaire. C'est beaucoup plus intense, on sait beaucoup plus sur la personne, c'est beaucoup plus de communication.
Autre obligation, le contact régulier avec d'éventuels tuteurs ou structures d'accueil pour personnes handicapées. Les relations restent encore un peu compliquées, mais pour Judith Arégé, tout ça en vaut la peine.
Il y a des gens qui sont carrément privés de toute sexualité, de tout toucher sensuel. Et ça, c'est quelque chose qui empêche une personne de se sentir vraiment homme ou femme, de devenir vraiment un être humain.
Plus d'informations concernant l'accompagnement sexuel sur le site www.assistancesexuelle.ch.